Ce qui en fait aussi sa difficulté. Et c'est-à-dire comme dans la pensée biblique du reste. Hein, et parfois on a envie, nous, un peu occidentaux cartésiens, de tirer le rideau, se dire tout ça, c'est. Vous voyez, résumons tout et mettons tout en équation et ça sera plus simple. Alors vous avez. Il y a des gens qui avaient déjà pensé à ça il y a très longtemps. Hein. Je pense à Tatien, par exemple, un Syrien, le Diatessaron. Il s'est rendu compte qu'il y avait quatre évangiles. Quatre évangiles, ça fait quatre trucs différents, qui n'ont pas la même chronologie, etc. Alors lui, il s'est dit que c'est compliqué, on résume tout en un seul. Donc il a fait une sorte de réduction des quatre en un. Oui, voilà, c'est ça, indigeste. Et alors, le problème, c'est que du coup, on perd beaucoup de richesses en supprimant ce qui ne rentre pas dans les. Parce que les pères de l'Église ont été très vite conscients qu'il y avait des contradictions, des choses qui n'allaient pas ensemble. Par exemple, les premières. Comment on appelle ça? Les premières. Synopses des évangiles, par exemple, on les trouve dès le 2e, 3e siècle. Hein. Ils se disent par exemple, les trois évangélistes dits synoptiques disent à peu près la même chose sur un point, et puis par contre, Saint Jean dira autre chose à un autre, ou alors par exemple, Saint Luc rajoute des trucs qui ne sont pas dans Marc ou Luc, ou dans Matthieu, et donc voilà, ils étaient bien conscients que, il y avait des choses en plus chez certains, en moins chez d'autres, donc voilà, mais ils acceptaient finalement qu'il y ait cette diversité. Et. Non seulement il y a une richesse dans tout ce qui est dit, mais aussi une richesse dans le fait que tout n'est pas dit de la même manière et que même qu'il y ait certaines contradictions, parce que ça nous laisse entendre que le mystère du Verbe est beaucoup plus profond que ce que les quatre évangélistes ont pu en dire chacun. Vous voyez? C'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir que par même ces contradictions littérales, l'Écriture sainte nous enseigne une vérité plus profonde.
Mystique ou pratique, les pères? C'est une mystique.
Ah bah
ou
c'est
pratique.
dans le christianisme, la pratique s'enracine dans la mystique. Donc ça, regardez Saint Paul. La morale chrétienne, c'est essentiellement une morale qui est issue de l'expérience de Dieu, de l'expérience du Christ. Alors bien sûr, il y a une morale naturelle. Qu'on va emprunter aux moralistes de l'époque, essentiellement aux stoïciens. Après, on redécouvrira Aristote. Personnellement, je préfère la morale d'Aristote. Mais globalement, la morale chrétienne, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle et elle s'enracine dans l'expérience spirituelle, autrement dit dans la mystique. Je prends juste un exemple, si vous, alors, scripturaire. Prenez l'épître aux Philippiens. Saint Paul commence par faire des remarques morales assez destinataires. Et puis, n'y tenant plus, il commence à donner la raison de son discours, de sa critique, en prenant l'exemple du Christ. C'est là où vous avez le magnifique passage. Lui qui est
l'égalité de Dieu.
oui, ne retenant pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, s'est abaissé, se faisant esclave, prenant une chair, etc., jusqu'à la mort de la croix, puis il a été exalté, etc. Et donc finalement, pour essayer d'enseigner à ces Philippiens l'humilité, il va pas prendre les catégories de Cicéron, de Sénèque, d'Aristote, etc. Il va prendre l'exemple du Christ, vous voyez. Toute notre morale, elle est issue de notre relation au Christ. Alors après, elle peut se servir d'instruments secondaires qui sont tirés de la morale naturelle qu'un certain nombre de philosophes ont découverte. Mais fondamentalement, notre morale, elle est enraciné dans l'expérience mystique. Donc, mais Saint Paul le dit d'ailleurs à certains passages, il a dit, quand il parle des fruits de l'esprit, il dit, pour ces gens-là, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi parce que quand on vit de l'esprit, quand l'esprit est notre vie, comme dit Saint Paul, eh ben, il n'y a plus besoin de règles, puisque les règles, on les a parfaitement intériorisées.
Aime et fais ce que tu veux.
Oui, c'est ça. Et ben voilà, c'est ce que saint Augustin reprendra sous cette forme. Donc, aime, c'est-à-dire vie de la charité, la charité authentique, c'est-à-dire la relation à Dieu. Et puis, fais ce que tu veux, parce que ce que tu feras, ça sera nécessairement ce que l'Esprit te dictera. Vous voyez? Alors, pour terminer, on va voir donc ce que j'ai appelé grand B, critères et autorités. Alors, on va d'abord voir quels sont les critères qui fondent un père de l'Église. Alors, vous l'avez déjà un peu compris, il y a l'orthodoxie de la doctrine. Pour être père, il faut être d'accord avec l'enseignement de l'Église, en gros, dans l'ensemble de sa doctrine, enfin, de ce qu'on enseigne. Alors, ça n'implique pas toutefois une infaillibilité dans tous les détails. Car, d'abord, à l'époque des pères, précisément, le dogme n'était pas encore fixé, puisque c'est eux qui vont contribuer à le fixer. Par exemple, saint Irénée, le grand saint Irénée, là, qui a ferraillé contre des dizaines d'hérésies, lui était millénariste. Voilà, il pensait que le Christ reviendrait pour un règne terrestre de 1000 ans. Il faut dire que c'est quand même pas trop compliqué à soutenir ça, parce que c'est texto dans l'Apocalypse. Alors, bon. Par exemple, saint Jérôme a rejeté ce qu'on appelle les écrits deutérocanoniques de l'écriture, c'est-à-dire ce qui était écrit dans l'Ancien Testament en grec. Et Luther reprendra la critique, enfin la position de saint Jérôme. Donc vous voyez, orthodoxie de la doctrine, mais en gros. Quand même, 99%, quoi. Il reste quand même, parfois, chez les uns ou chez les autres, des petites idées qui seront pas reprises. Voilà, en gros. Alors, aussi, sainteté de vie. Ce que les pères enseignent, c'est pas vraiment une doctrine. Ce qu'ils enseignent, c'est une voie vers un accomplissement qui est la sainteté. Donc, c'est la science du salut, en quelque sorte. Et ça ne s'acquiert pas par pure spéculation, comme pensaient les gnostiques, ça s'acquiert, on pourrait dire, par connaturalité, par pratique. Et donc la sainteté, à l'époque où il n'y a pas encore de canonisation par le magistère, apparaît comme la garantie d'une compréhension plus exacte des choses surnaturelles. Celui qui vit pieusement, qui éventuellement a versé son sang pour sa foi, etc., qui s'est fait moine ou je ne sais quoi, on a tendance à penser que ce qu'il a enseigné est plus juste que quelqu'un qui aurait eu une vie dissolue. Donc, vous voyez, la sainteté de vie est un peu une garantie aussi d'une orthodoxie qui n'est jamais prise comme une doctrine pour elle-même, mais comme une voie qui conduit à un accomplissement. Donc, mais c'est là encore, c'est une sainteté générale. Bon, pas une sainteté dans tous les détails. Par exemple, on sait que saint Jérôme avait plutôt mauvais caractère. On sait que saint Cyril d'Alexandrie était un tyran abominable. On l'a appelé le pharaon chrétien, pas pour rien. Alors après, autre critère, il faut l'approbation de l'Église. Autrement dit, que l'Église est renvoyée à tel auteur en disant sur cette question, lisez machin. Alors, l'approbation peut être très rapide, comme par exemple celle de saint Augustin par le pape Célestin Ier, qui est quasiment de la génération d'après. Ou encore le pape Hormisdas sur le même Augustin pour les mêmes questions de sur la grâce. Par exemple, il dira dans une de ses lettres, c'est là, donc chez Augustin, que l'on pourra le mieux connaître la doctrine de l'Église romaine. À l'époque où il n'y avait pas de catéchisme, où les papes de Rome vivaient dans les catacombes, enfin, plus vraiment à l'époque de Saint-Célestin, mais enfin bref, à l'époque où ils n'avaient pas vraiment de rayonnement intellectuel, mais en tout cas qu'ils avaient ce pouvoir de juger des doctrines, eh bien, ils renvoient à qui? À l'œuvre de Saint-Augustin. Donc, vous voyez, autrement dit, dès le 5e siècle, Saint-Augustin est considéré comme un auteur sur lequel on peut s'appuyer. Ou alors, l'écrivain peut être cité avec honneur dans un concile. Je pense par exemple au concile de Chalcédoine, au 5e siècle, en Christologie, où un écrit du pape Saint-Léon Ier, Saint-Léon, avait été lu auparavant, et qui avait été ce sur quoi les évêques de Chalcédoine se sont appuyés pour défendre leur conception du Christ, un, mais cependant en deux natures. Les évêques s'écriront « Le Saint-Esprit a parlé par Léon ». Autrement dit, vous voyez qu'il est approuvé par tous les évêques rassemblés, enfin, essentiellement des évêques orientaux quand même, enfin c'est encore plus miraculeux, qui canonise la pensée du principal évêque occidental.
Il y avait déjà une différence entre l'Orient et l'Occident.
Ah ben oui, hein. La principale différence, c'est que les uns parlaient en grec, et avaient des catégories plutôt grec, disons, et les autres sont passés très vite du grec au latin. Parce que les premiers pères d'Occident parlaient grec du fait que c'était des orientaux en Occident, et ensuite, quand ils ont fait des petits, si j'ose dire, ils ont eu une descendance latinisante, donc, par exemple des Tertulliens. Augustin savait le grec, mais pas très bien finalement, moins qu'Ambroise. Et après, on aura des pères de l'Église qui parleront plus du tout. Et donc, il va y avoir des différences de perception des choses. Par exemple,
au niveau linguistique, et d'ailleurs, qui
au moment des conciles vont se révéler assez dramatique, parce que certains pères, par exemple, je prends un mot tout simple, hypostasis. En grec, ça va désigner, alors étymologiquement, c'est ce qui se tient sous. Pour les Grecs, ça désigne la personne. Pour les Latins, ça désigne. Alors, si vous translittérez ça en latin, vous avez substantia. Donc, d'un côté, pour les Grecs, ça veut dire la personne. Pour les autres, la substance. En matière trinitaire, c'est quand même très différent, hein. Il y a trois personnes, mais une seule substance. Donc, quand les Grecs diront il y a trois hypostasis, les Latins comprendront il y a trois substances. Mais c'est du trithéisme, ça, c'est plus le monothéisme. Et d'un autre côté, quand les Grecs quand les Latins vont parler de persona pour exprimer ce que nous on appelle les personnes, le premier c'est Tertullien d'ailleurs, pour les Grecs c'est pour les Latins aussi du reste, c'était le masque qu'on mettait sur les acteurs. Donc pour exprimer la vérité d'une personne, d'exprimer ça parce qu'il y en a en fait le masque. Vous voyez que c'était très.
Ça doit être difficile.
Voilà, les Grecs essaient d'exprimer la personne parce qu'il se tient dessous, donc à l'origine, et les Latins vont exprimer ça parce qu'il se tient à la superficie, et qui est artificielle d'une certaine manière. Donc vous voyez que les origines mentales sont quand même extrêmement différentes, et ça entraînera plein de quiproquos, voilà, pour le coup. Des cafouillages doctrinaux assez importants. Alors donc, vous voyez...
Ils n'avaient pas de traducteur.
Ils avaient... il y avait des traducteurs, mais enfin, il fallait surtout des gens qui puissent maîtriser les deux cultures en même temps. Et ça va vite se perdre. Ça va vite se perdre. Alors aussi... très souvent, cette approbation de l'Église est implicite. Elle est implicite parce que tel père va citer tel autre pour défendre ses arguments. Et si c'est un père orthodoxe, bah finalement, ceux qui citent, on considère qu'ils sont orthodoxes aussi. Et puis, donc voilà, l'approbation, elle se fait comme ça, à travers les citations. On cite, on cite Augustin, donc on finit par se dire, bah, ce que Augustin dit doit être juste. Alors, l'ancienneté, enfin, pour terminer sur les critères, c'est ce qui distingue, comme je le disais tout à l'heure, les pères des docteurs. Le titre de docteur, pardon, va être décerné pour la première fois par Boniface VIII. Alors Boniface VIII, ça nous renvoie au Moyen Âge, hein, à la
gifle.
Oui, c'est ça, à la gifle d'Agnani.
Début 14e.
Oui. À quatre pères latins. Seriez-vous me citer les quatre pères latins qui sont devenus docteurs de l'Église latine? Les quatre. Alors Ambroise,
Jérôme,
Augustin.
Saint-Jérôme.
Non. Alors donc Jérôme, Augustin, Ambroise et Grégoire.
Grégoire le Grand.
Grégoire le Grand. Ah, vous n'aviez pas dit Grégoire? Ah, j'avais compris Grégoire. Donc Grégoire le Grand. Donc voilà. Alors Saint Pie V qui s'est dit, après tout, il y a quatre docteurs d'Occident, mais on n'est quand même pas de l'Église indivise, donc il est allé aussi chercher des docteurs dont l'Église d'Orient. Alors, qu'est-ce que vous me diriez
Grégoire
comme...
de Nazianze.
Alors, Grégoire de Nazianze, Chrysostome, Basile de Césarée, et...
Cyril.
Non. Il avait trop mauvais caractère, lui. Allez, un des grands,
Clément,
un égyptien.
Clément.
Celui de mon anniversaire.
Athanase.
Bien sûr, contrarius.
Voilà. Athanasius. Athanase d'Alexandrie. Alors, au fait, petit détail. C'est vrai qu'Athanase, on n'a pas transféré sa fête. Il est toujours fêté le même jour. Et alors, vous savez, une chose amusante, c'est que Saint-Janvier, dont le sang s'est liquéfié le jour de sa fête. Eh bien, la réforme liturgique, on n'a pas osé déplacer la date de sa fête. Parce que peut-être qu'il n'aurait pas liquéfié son sang avec la date réformée. Donc, à mesure de prudence, ils ont gardé le 19 janvier. Donc, c'est... Voilà, je dis ça comme ça, j'ai rien dit. Hein.
C'est vrai, quand je dis le sens, celui qui
est fille,
chaque Saint-Janvier.
Oui, Saint-Janvier.
C'est trois fois par an.
Oui, trois fois par an, oui.
C'est pas du tout.
Et quand il ne se liquéfie pas, qu'est-ce que ça signifie?
Pas bon signe. C'est pas un bon signe.
C'est mauvais signe.
C'est mauvais signe.
Surtout pour l'Italie.
Oui, le Vésuve qui se prépare. Et alors, on raconte, alors je l'avais dit aux gens, là, le jour de la fête, que en 1798, lorsque les Français... Les Français qui sont appréciés de tout le monde en France, mais pas trop des étrangers à l'étranger. Là, j'étais à Malte, on nous a raconté encore plein de choses sur ce que les Français ont fait. Donc, ils ont pillé, voilà, etc.
C'est pas les Anglais ?
Non. Les Anglais ont interrompu le pillage. Alors, les Français, quand ils sont arrivés à Naples, ils ont créé une république. Et puis, par non-européenne. Et puis, ils ont essayé évidemment de se débarrasser de la superstition. Alors, évidemment, à Naples, superstition de choix, la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Alors, il y a un soudard républicain avec sa bande de gens à baïonnette et autres qui rentrent dans la cathédrale le jour de la fête et qui mettent qui disent au doyen du chapitre, voilà, on vous liquide si le sang ne se liquide pas, hein, si j'ose dire, ne se liquéfie pas. Et alors évidemment, vous imaginez que probablement les chanoines de Naples n'ont jamais dû prier avec autant de ferveur que ce jour-là. Et alors, à la grande surprise du soudard français, le sang s'est liquéfié. Et alors, du coup, ils sont repartis un peu penauds et ils n'ont pas fait de mauvais sort aux chanoines de Naples. Donc, vous voyez ça. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, d'ailleurs.
C'est un père de l'Église.
Avec Napoléon, premier consul, enfin, c'était...
Non, on parlait de Saint Bonaparte.
Oui, alors, bah, c'était à l'époque où Bonaparte devait être en Égypte, on l'a occupé ailleurs. Oui, après, d'ailleurs, je crois que la coalition a vite récupéré le Naples. Alors, donc, vous voyez, les docteurs de l'Église, 4 d'Orient, 4 d'Occident, et puis, évidemment, ça, c'est les docteurs qui sont mis en exergue. D'ailleurs, vous les avez sur à Saint-Pierre, là.
Sur du Bernin.
Oui, le Bernin, on a représenté 2 de chaque. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez lesquels? Alors, eh ben écoutez, il y a Athanase et Chrysostome, je crois bien. Et il doit y avoir... Oui, ils n'ont pas de mythe, ces deux-là. Et puis, il doit y avoir Ambroise et Augustin. Ou alors, Augustin et Grégoire. Non, je ne sais plus. Et donc, c'est à la fin... Alors, après, il y aura d'autres dizaines de docteurs. Vous savez, même des docteurs femmes, comme Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus... Je crois que c'est tout pour l'instant.
Non, il y en a 4.
4 Stein aussi.
Non.
Stein,
oui,
peut-être bien.
Oui, c'est récent.
Oui, c'est récent. Oui, oui, oui. Elle était.
Ah oui, oui. Ah, mais il y a très récent.
C'est ça. Oui, oui. Ça fait quand même. Ça fait quand même 3 carmélites. Hein.
C'est Catherine de Sienne qui est passante de l'ordre. Catherine de Sienne.
Stein aussi. Et alors donc, il y a des tas de docteurs de l'Église qui ont été.
C'est pas Hildegarde aussi qui est docteur?
Oui, aussi. Non, Hildegarde.
Ah non, elle n'est pas docteur. Non, elle n'est pas docteur.
Elle est Hildegarde. Voilà. Et donc, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on a réservé.
Einstein, je crois absolument pas.
Il faudra vérifier.
Il a pas été nommé docteur récemment, Hildegarde.
Bah, faudra regarder sur Internet. En tout cas, elles sont pas mères de l'Église. C'est pas assez ancien.
Non, c'est peut-être un problème. Je sais pas, ça m'étonnerait quand même. On en aurait parlé. C'était nommé récemment, ça aurait fait du bruit.
Oui, c'est Benoît XVI qui l'a ressorti.
Peut-être bien, peut-être Benoît XVI.
Voilà.
Alors en tout cas, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on va décider que désormais les pères ne qualifieront que des grands théologiens de l'Antiquité. Parce qu'encore au Moyen-Âge, on avait un peu tendance à parler de pères pour des évêques comme Saint Bonaventure ou des gens comme ça. Et on va appeler donc du coup écrivain ecclésiastique les auteurs chrétiens anciens qui ne satisfont pas à l'un ou l'autre des critères que j'ai déjà nommés, orthodoxie de la doctrine, sainteté de vie, approbation de l'Église et ancienneté. Et les auteurs chrétiens non ecclésiastiques, c'est-à-dire en particulier les hérétiques ou les païens, eh bien, on entreront dans la catégorie plus large de la littérature chrétienne primitive. Donc, on ne sera pas étonné de trouver Cels dans cette littérature chrétienne primitive ou d'autres encore. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser l'horaire imparti.
Les docteurs remplacent les pères, je veux dire, à quelle clinique ?
Comment ?
Les docteurs remplacent les pères ?
Eh bien, plus ou moins à partir du Moyen-Âge, quand on va avoir tendance à vraiment réserver le titre de père aux écrivains anciens. Alors après, évidemment... au XIIIe siècle, à peu près. Oui.
Alors, et donc, Saint Bonaventure, il est docteur
parce qu'il est du XIIIe siècle.
Ah oui, c'est déjà... Oui, il est déjà...
Alors donc voilà, si vous êtes intéressé par la lecture des pères, vous avez le gros volume de la Pléiade qui ne couvre que les deux trois premiers siècles, et puis alors le petit volume, alors pour le premier deuxième siècle des pères apostoliques, c'est un petit volume, et puis je vous parlerai après des grandes collections où on peut les lire dans le texte. Alors le texte globalement c'est essentiellement du grec, du latin, du syriaque Le syriaque, c'est un peu de l'araméen, voilà. Et puis, parfois du copte, de l'arménien. Parce que n'oublions pas que la fille aînée de l'Église... La fille aînée de l'Église, c'est qui ?
Elle est docteur de
l'Église. C'est l'Arménie.
L'Arménie.
La fille aînée de l'Église, c'est
le premier souverain. En fait, le premier souverain, le premier peuple à s'être intégralement converti, c'est l'Arménie.
Et Liechtenstein ?
Alors,
non, moi je pense qu'elle l'est pas.
Non, c'est
Thérèse en 1997.
Oui. Voilà. Alors,
mais l'Arménie telle qu'elle est dans les cartes.
L'Arménie d'autrefois. C'est-à-dire à l'époque, elle était dans une zone.